J'espère que vous allez bien. Nous avons commencé une série sur le Notre Père, comme Jean-Philippe nous l'a rappelé, qu'on appelle parfois Oraison dominicale. En tout cas, c'est un des textes les plus lus et certainement les plus récités dans les églises. On trouve ce texte dans deux endroits dans la Bible, dans Matthieu, au chapitre 6, mais aussi dans Luc, chapitre 11. Le texte de Luc est légèrement plus court que le texte de Matthieu, et donc je vais m'appuyer beaucoup sur le texte de Matthieu tout au long de cette série, et particulièrement aujourd'hui. La dernière fois, il y a deux semaines, nous avions vu un petit peu les versets qui sont avant cette prière du Notre Père. Et Jésus insistait beaucoup sur l'humilité qu'il convient d'avoir lorsqu'on va prier. La semaine dernière, l'humilité était encore le thème du message. Peut-être que Dieu veut nous parler à chacun d'entre nous sur ce thème-là. En tous les cas, la dernière fois, nous avions vu que Jésus invitait les disciples, les gens qui écoutaient, « Toi, si tu veux prier, va dans ta chambre. » Et littéralement, le mot « chambre », « tameion » veut dire « kajibi ». Donc toi, quand tu veux prier, va dans le kajibi. C'était bien sûr pour choquer les auditeurs qui avaient l'habitude de voir les pharisiens se promener sur les places publiques et s'arrêter au moment de la prière, pour que tout le monde les voit en train de prier, qu'on puisse dire oh, « quels gens pieux !» Jésus nous invite au contraire à avoir une attitude humble. Dans ce lieu secret, nous avions vu aussi il y a deux semaines que non seulement Dieu entend, mais il voit. Il voit nos souffrances, il voit nos luttes, nos rêves brisés, nos rêves que nous avons encore, nos aspirations. Dieu voit. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prier avec vous. Et avant de prier, je voudrais lire le texte du Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Je vais prendre la version qui est là, pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est une lampe à nos pieds et une lumière qui guide sur nos sentiers. Que ce message de ce matin soit à ta gloire, Seigneur, et que nous puissions les uns et les autres apprendre à prier comme tu l'entends. Amen. Ce matin, je vous invite avec moi à faire trois parties. Tout d'abord, nous allons voir Dieu. En quoi est-il un Père? Ensuite, nous allons passer du Père terrestre au Père céleste, avant de terminer sur cette phrase « Notre Père qui est aux cieux » en insistant sur la deuxième partie du verset. Dieu un Père. Quelle est votre image de Dieu? C'est une question importante. Lorsque nous commençons une discussion avec quelqu'un, savoir qui nous avons en face de nous change notre façon de discuter. Je ne parle pas de la même manière à un supérieur hiérarchique, à un professeur, ou à un ami ou quelqu'un de proche de ma famille. Je ne parle pas non plus de la même manière à quelqu'un qui me veut du mal qu'à quelqu'un qui me veut du bien et qui m'accepte comme je suis. Donc la question « comment ?» Quelle est notre image de Dieu? Comment nous voyons Dieu est importante. Quelle est notre image de Dieu? Voyons-nous Dieu comme quelqu'un qui nous accueille réellement, comme nous sommes, avec nos faiblesses, nos luttes, nos échecs? Ou est-ce que nous le voyons comme quelqu'un de sévère? Jésus, lui, commence sa prière par « Notre Père qui es aux cieux ». Alors, pour ceux qui regarderont dans la version de Luc, vous verrez que Luc ne met pas la mention « qui est aux cieux ». Tout simplement parce que Luc écrit à des Grecs, de culture païenne, et que le Dieu qui est aux cieux, en général, c'est Zeus. Et donc du coup, pour pas qu'il y ait de confusion possible, Luc enlève cette partie et met juste simplement « notre Père ». Mais revenons au texte de Matthieu 6. Les Juifs qui écoutaient Jésus à ce moment-là avaient une idée précise de qui est Dieu. En effet, les Juifs savent qui est Dieu. Ils lisaient l'Ancien Testament, la loi, les écrits, les prophètes. Certains même l'avaient copié, puisqu'un juif pieux doit copier une fois dans sa vie la Torah. Il savait donc qui était Dieu. Et puis il prie. On l'avait vu la dernière fois, il prie 3 fois par jour, il prie à la synagogue, il prie pour les fêtes, il prie en famille, et il prie personnellement pour des sujets personnels. D'ailleurs, les Juifs, quand ils commencent à prier, commencent par ces mots « Béni sois-tu, ô Seigneur, roi de l'univers ». Le mot qui est utilisé dans cette prière, c'est « Adonai ». Vous savez que les Juifs, lorsqu'ils voient dans le texte biblique « Yahweh », ne disent surtout pas ce nom. C'est le nom de Dieu. Et nommer Dieu, ce serait faire l'égal de Dieu. Donc les Juifs, lorsqu'ils voient le tétragramme, Yahweh, ne disent pas ce mot, ils disent Adonai, le Dieu qui est au-dessus de tout nom et duquel on n'a pas le droit de prononcer le nom, tellement il est grand. Donc les Juifs ne disent pas le nom de Dieu. J'aimerais vous donner une citation de frère Roger de Thésée, qui a dit ceci. Le peuple de Dieu était habité par la forte conscience que son Dieu était l'autre, l'incomparable, celui qui est bien au-dessus de toutes les catégories de l'intelligence humaine. Voilà comment les Juifs s'approchaient de Dieu. Et Jésus commence sa prière non pas par Adonai, mais par Père. Parce que dans le texte en grec, le premier mot de cette prière, c'est Père. Si on voulait le traduire, on devrait traduire littéralement « Père, Abba, le nôtre, toi qui es dans les ciels ». Ça, ce serait le plus littéral possible, le plus proche du grec. Et ce qui est choquant, c'est que Jésus s'adresse à Dieu comme à un Père, alors que Dieu est le Dieu Tout-Puissant, Adonai. Alors c'est vrai que le titre de Père se trouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament, mais plutôt pour parler d'une image. Aucune personne ne s'adresse à Dieu directement en disant « Père ». C'est complètement révolutionnaire. En plus, Jésus utilise un mot « Abba » qui est en araméen. Or, à l'époque de Jésus, tout ce qui a lieu, tout ce qui se fait dans le culte, tout ce qui se dit, tout ce qui se prie, se fait en hébreu et pas en araméen qui est la langue habituelle de tous les jours. Donc non seulement Jésus appelle Dieu « Père », mais en plus il le dit dans la langue de tous les jours. C'est un petit peu comme si il y a quelques siècles en France, on se serait permis de faire une prière, non pas en latin, mais en français. Jésus, là, parle en araméen, dans la langue de tous les jours, pour parler à Dieu. Et il dit « Abba, Père ». L'auditeur est surpris. Il est choqué. Il est interpellé par cette façon de s'approcher de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Jean, lui, va rapporter un passage où les Juifs sont choqués, scandalisés, par l'attitude de Jésus qui nomme Dieu « Père ». On va le lire ensemble dans Jean 5, les versets 17 à 18. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal de Dieu. Que Jésus dise donc « Notre Père, Abba », est choquant pour le Juif. Mais ce qu'il y a encore plus, c'est toute la conception de Dieu que Jésus va amener avec cette idée du Père. En fait, dans le sermon sur la montagne, dans lequel se trouve cette prière du Notre Père, Jésus utilise Notre Père ou Mon Père, le Père, 17 fois pour parler de Dieu. Cette façon de faire, d'insister sur Dieu Père, bouscule les Juifs. Et les Juifs avaient plein de fausses idées sur Dieu. Mais je crois que ces fausses idées ne sont pas restées au temps de Jésus. Elles ont la peau dure. Et je crois que nombreux d'entre nous, nous avons encore des fausses idées de qui est Dieu. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vais vous faire quelques recommandations de livres pendant le message. Il y a le livre de Danny Amo, Image de Dieu, sur lequel je me suis inspiré, qui vaut la peine d'être lu. Une des fausses idées les plus répandues, c'est celle qui consiste à voir comme en Dieu un être menaçant. C'est en général ce qu'on entend lorsque quelqu'un dit « il doit y avoir quelque chose, une force mystérieuse ». Et cette idée de Dieu date. C'est une image de Dieu qui prend racine dans les angoisses des hommes. C'est un Dieu sans visage qui menace et qui va nous faire du mal. Et il faudrait apaiser absolument ce Dieu dangereux. Alors, si vous tapez « image de Dieu » sur Google, vous allez trouver plusieurs images. Et c'est effectivement cette image du Dieu menaçant. Vous en avez une autre un peu pire, enfin pire. Dans la Bible, on trouve ce genre de Dieu qui effraye, Moloch et Baal. Pour les apaiser, on devait faire des sacrifices d'enfants, entre autres. Alors sans être aussi extrême et de vouloir sacrifier des enfants, je crois que malheureusement beaucoup de chrétiens ont encore peur de Dieu. Ils voient en Dieu un être menaçant. Et face à ce Dieu menaçant, les chrétiens doivent faire des choses. Il faut absolument faire. Un bon chrétien doit prier, ça apaise Dieu. Un bon chrétien doit lire la Bible, sinon Dieu va te punir. Un bon chrétien, finalement, devient celui qui sait apaiser Dieu. En réalité, ces chrétiens ont peur de Dieu. Ils sont effrayés par Dieu. J'ai entendu l'histoire d'une personne à qui l'on a dit, lorsqu'elle était plus jeune, que tous les soirs, il fallait qu'elle prie à genoux devant son lit avec sa famille, sinon elle irait en enfer. Pas de chance pour cette personne, sa famille n'était pas chrétienne. Et cette jeune fille a grandi avec l'idée qu'il fallait absolument apaiser ce Dieu qui allait la punir si elle ne faisait pas ce qu'un bon chrétien devait faire. Les personnes qui ont cette vision de Dieu ont peur de Dieu, mais c'est une peur malsaine, parce que peur et foi sont incompatibles. Ceux qui vivent avec cette peur ont toujours l'impression que Dieu est comme une épée de Damoclès qui à n'importe quel moment va nous tomber dessus et nous punir. C'est une fausse image de Dieu. Il y en a une autre, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a une autre, c'est le Dieu de la morale, qui est assez proche. Dieu veut ceci, Dieu veut cela. Et son amour, il est conditionné par ce que nous faisons. Ah, si je mets beaucoup dans la collecte, je vais être béni, c'est sûr. Par contre, si je mets rien, je vais en prendre pour mon grade. Pas du tout. Dieu nous laisse libres les uns et les autres. Et son amour ne varie pas en fonction des actes que l'on peut faire. Il nous aime. Ça ne veut pas dire qu'il aime le péché, mais il nous aime sincèrement, profondément les uns et les autres, quoi que nous fassions. Alors, il existe de nombreuses fausses idées sur Dieu, et je vous recommande un autre livre aussi, « Ces fausses croyances qui nous piègent », il est disponible si vous le souhaitez. Du Père terrestre au Père céleste. En fait, il y a une grosse difficulté pour les chrétiens, mais pour toutes les personnes en réalité, pour comprendre ce Dieu Père. Un des animateurs qui travaillait avec moi dans les quartiers, lorsqu'on faisait de l'animation de rue, avait une fois abordé un enfant, et pour partager son amour pour Dieu, il lui avait dit « Écoute, j'aimerais te présenter Dieu ». Alors le jeune a répondu « Ok, je veux savoir, il ressemble à quoi ton Dieu ?»« Bah, Dieu, c'est comme un père. Bah, s'il est comme mon vieux, tu peux te le garder. » Ah oui, cet enfant, il était victime de violence de la part de son père. Son père, il battait sa maman et il le battait lui. Alors vous parlez, avoir un Dieu qui ressemble à son père, hors de question. Le fait est que nous commençons tous notre vie en tant que des bébés. Et nous avons tous deux parents. C'est ainsi que Dieu a conçu la vie et la continuation de la vie. Dieu a mis la famille au cœur de la vie des uns et des autres. Alors je rappelle au passage, par les temps qui courent, ça vaut parfois le coup, qu'une famille est composée bibliquement d'un homme, d'une femme et des enfants. Et Dieu estimait que grâce à la compréhension qu'un enfant pouvait recevoir de son père et de sa mère, il pourrait comprendre qui est Dieu. Malheureusement, dans beaucoup de familles, c'est pas ce qui se passe. C'est triste. L'enfant devrait se savoir aimé, compris, accepté tel qu'il est. Un enfant a besoin de savoir que son père est fier de lui. Une enquête a révélé récemment que 60% des garçons pensent qu'ils ne sont pas assez bien aux yeux de leur père. 60%. Et alors que Jésus présente Dieu comme un père, nous projetons l'image de notre Père terrestre sur ce Père céleste. Et pour les hommes en particulier, puisqu'au moins 60% ont des difficultés avec ça, c'est difficile de voir Dieu comme un père. Nous avons une responsabilité très importante en tant que père. Et je suis père moi-même et j'en mesure tous les enjeux et les difficultés aussi que cela représente pour un père. En tant que père, nous devons être les représentants du Père céleste pour nos enfants. Mon père, terrestre pour le coup, m'a écrit une lettre il y a assez peu de temps. Il a écrit une lettre en fait à tous ses enfants. On est trois garçons. Et à tous les trois, il nous a écrit une lettre pour nous dire toute la fierté qu'il avait pour nous. C'est une lettre qui motive, qui encourage et qui donne des ailes. En tant que père, ne négligeons pas la puissance de nos mots d'encouragement pour nos enfants. Hans-Joachim Eywand a écrit un livre en allemand qui s'appelle Vater und Sohn et il donne une définition de ce qu'est un père. Je vous la lis. Un père, c'est quelqu'un qui nous aime profondément et qui se donne pour nous. Il envisage le meilleur. Il ne se limite pas à nous dire ce que nous devons faire et comment, mais il le montre sans faire de grands discours. Dans la Bible, on trouve plusieurs pères. Et on a notamment tout un enseignement, toute une série de versets, où Paul se décrit comme le père d'une église à Thessalonique. Et j'aimerais, sans entrer trop dans le détail, simplement souligner quelques points de ce que Paul dit en étant père de cette église. Et pourtant, comme apôtre du Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous nous sommes faits tout petits au milieu de vous. L'humilité, on la retrouve à chaque fois, hein. Comme une mère prend soin des enfants qu'elle nourrit, nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez en effet, frères, notre travail et notre peine. C'est en œuvrant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous que nous avons proclamé la bonne nouvelle de Dieu. Il y a plusieurs choses qui sont dites. Le texte continue. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été chacun de vous, que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté, adjuré de vous comporter d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ça fait des éléments hein, pour les parents. Voici tout un programme donc pour nous les pères, pour nous les parents. Mais c'est aussi un réconfort pour nous parce que Dieu fait toutes ces choses pour nous. Dieu n'est donc pas un être mystérieux, menaçant qu'il faut apaiser. Dans le livre de Neil Anderson, Nouvelle identité pour une nouvelle vie, Neil Anderson dit les choses très simplement et j'aimerais vous le lire. Dieu mon père n'est pas lointain et peu intéressé à ma vie. Mon père céleste est intime. Et impliqué dans ma vie. Il m'a tissé dans le ventre de ma mère, et dès le départ, il a été avec moi, à chaque étape de ma vie, s'intéressant à moi dans tous les détails de ma vie. Dieu mon Père Céleste n'est donc pas insensible et indifférent à ce que je vis. Mais au contraire, il est bon et rempli de compassion pour moi. Parce qu'il m'aime, mon Père Céleste n'est pas sévère, exigeant ce qui est impossible, impatient. En colère et jamais content de ce que je fais. Il n'est pas pinailleur cherchant toujours la petite bête. Non, Dieu mon Père Céleste est rempli d'amour pour moi. Il est chaleureux et plein d'affection. Il se réjouit avec moi de mes réussites et il m'aide à surmonter mes difficultés. Mon Père Céleste n'est pas trop absent ou trop occupé pour penser à moi. Mais il est toujours avec moi et il désire toujours être avec moi. Mon Père Céleste n'est pas méchant, cruel ou abusif, mais il est plein d'amour et de douceur, soucieux de veiller sur moi. Il est plein de tendresse, et toujours prêt à pardonner. Son cœur et ses bras me sont toujours ouverts. Toutes ces choses sont contenues dans le mot « Père », « Abba ». Le deuxième mot dans cette phrase, c'est le « nôtre », ou « qui à nous ». Le mot « père » donnait un sens nouveau à la relation entre Dieu et les hommes. On le voit bien, on passe d'un Dieu menaçant, qu'il faut apaiser, à un Dieu père, rempli de tendresse et d'amour. Et avec ce « nous », Jean-Philippe nous en a déjà parlé un petit peu, c'est la relation avec les autres qui va être touchée. Père touchait la relation entre Dieu et moi, le nôtre touche la relation que j'ai avec les frères, mes frères et sœurs qui ont le même Père. En fait, Jésus, en disant ces choses, dit que la relation avec Dieu ne peut pas être individualiste. On ne peut pas être chrétien et isolé, autrement dit. Un chrétien, il est avec d'autres chrétiens. Qu'on le veuille ou non, comme a dit Jean-Philippe, c'est une réalité. Nous faisons partie de la même famille. Je ne suis pas un enfant unique. J'ai des frères et j'ai des sœurs. Nul ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas, sans aimer son frère qu'il voit. Un verset difficile, ça. Hein, en tout cas, pour moi, il est difficile. Nul ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas, sans aimer son frère qu'il voit. Notre Père qui est aux cieux. Cette expression « qui est aux cieux » est une expression typiquement juive. Alors, il ne s'agit pas de croire que Dieu est assis sur un nuage, en train de regarder les hommes, les femmes. Mais c'est notre Père des ciels. Ça veut dire qu'il y a une notion de grandeur, de majesté. Autrement dit, Dieu, il est Dieu, et nous ne le sommes pas. Même si Dieu est notre Père, il reste le tout autre, le tout puissant, le trois fois saint. Dieu est Dieu. Il est le Dieu de tous les humains. Que les hommes le reconnaissent ou pas, Dieu est le Dieu de tous les humains. Dieu est donc le père d'Adolf Hitler, de Staline et de Mao, même si ces gens ne l'ont pas reconnu comme tel. Et ils auront des comptes à rendre. Mais Dieu n'est pas le père d'Hitler, de Staline ou de Mao. Seul un enfant de Dieu peut connaître Dieu comme un père. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont accueilli, qui ont cru en lui, à tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que Dieu est notre Père. C'est par la foi que nous croyons que le péché nous séparait de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que ce Dieu Tout-Puissant a franchi cet espace infini entre le Dieu des cieux et nous, les terrestres, les humains, pour nous donner la vie et la liberté. Par l'action du Saint-Esprit, Dieu lui-même nous permet de naître de nouveau, de commencer une vie nouvelle avec lui. Non plus comme des enfants de péché, mais des enfants de Dieu. Romains 8, 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba ». C'est-à-dire Père. En fait, c'est le message central de la Bible. En une phrase, Jésus résume tout l'Évangile. Notre Père qui est aux cieux. Oui, Dieu est notre Père. Mais pour devenir notre Père, il a traversé l'espace entre les cieux et la terre. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Galates 4, 6. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et parce qu'il a fait tout ça, nous pouvons dire oui, Dieu est notre Père. J'aimerais vous donner une image pour terminer. Les serviteurs s'approchent du roi souverain avec beaucoup de protocoles. Faire la courbette. On s'approche de ce roi avec des cadeaux. Et on s'en approche uniquement lorsque ce roi nous en donne la permission. Mais le fils du roi, lui, il s'approche en disant père, même si son père est roi. Il n'a pas besoin de faire tout le protocole. Il n'a pas besoin de venir avec des cadeaux. Il n'y a pas un moment où il peut avoir audience. Le père du roi peut venir quand il le souhaite, parce que c'est son père. Notre Père qui est aux cieux. Dieu est roi. Il est pleinement Adonai, le Dieu Tout-Puissant. Mais il est aussi notre Père. Notre Père qui est dans les cieux, ça nous rappelle aussi qu'il y a une perspective pour nous qui sommes ses enfants. Nous n'allons pas rester éternellement sur cette terre avec toutes les souffrances, toutes les difficultés, les crises et j'en passe, que nous connaissons. Notre Père qui est dans les cieux nous a préparé une place. Et nous célébrerons sa gloire avec lui pour l'éternité. Quand nous venons dans la prière les uns les autres, je crois que ça vaut la peine de se rappeler tout ce que cela veut dire, notre Père qui est aux cieux. Et nous rappeler que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons d'un Père et non d'un Dieu menaçant. J'aimerais terminer avec ce verset. Matthieu 7, verset 11. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Seigneur, apprends-nous à prier comme toi. J'aimerais vous laisser quelques instants de réflexion avec juste un fond musical. C'est une chanson qui a été écrite par un groupe d'enfants qui est issu de l'endroit où on travaillait avec Anne dans les quartiers. Ce sont les enfants du quartier qui ont monté une chorale avec un officier de l'armée du salut. Ça s'appelle Les Enfants du Boss. Et ils ont chanté une chanson qui s'appelle Tu as un père. Et j'aimerais vous la laisser pour réfléchir à ce que nous venons de dire ensemble. J'aimerais prier encore avec vous. Seigneur notre Dieu, merci, oui, parce que tu es notre Père. Et parce que tu écoutes nos prières. Et tu fais bien plus que ça, tu nous vois dans nos prières. Merci parce que tu es ce Dieu Père, ce Dieu Tout-Puissant, mais qui s'est fait proche. Ce Dieu Tout-Puissant, mais qui s'est donné par amour pour nous. Et merci parce que nous pouvons nous approcher de toi en toute tranquillité, sachant que nous sommes aimés, acceptés et libres. Merci Seigneur pour cette proximité que nous pouvons avoir avec toi. Amen. Amen.